Anna, est-ce que tu veux nous résumer ce qui se passe avec le Mont-Sainte-Anne? Parce que ça va être le sujet principal de discussion avec M. Paradis.
Ouais, la station de ski qui pourra enfin lancer la saison au Mont-Sainte-Anne, la régie du bâtiment du Québec, qui a autorisé l'ouverture des remontées mécaniques. Ouverture qui est prévue à 9h demain, mais on indique que les quantités de pluie annoncées pourraient possiblement repousser l'ouverture à samedi 8h30, la décision qui sera prise au courant de la journée aujourd'hui. Le gouvernement Legault qui pourrait donc aller de l'avant avec un prêt subvention de 50 millions de dollars, pardon, à condition que Resort... Ouais, il y a des petites limites, là. À condition que Resort of the Canadian Rockies mette aussi 50 millions de sa poche. Il y a un plan d'investissement qui devrait être présenté bientôt à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec s'est entendu avec la station du Mont-Sainte-Anne pour reprendre le secteur Est dès avril prochain via la CEPAC.
Merci beaucoup, Max. On a au bout du fil Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois et porte-parole de la Capitale-Nationale. Monsieur Paradis, comment allez-vous?
Ça va bien, et vous-même?
Ça va super bien, merci. Monsieur Paradis, la régie du bâtiment a conclu qu'on pouvait ouvrir la station du Mont-Sainte-Anne ce week-end. Donc, est-ce que tous les problèmes d'RCR sont réglés?
Non, parce que les problèmes de RCR, ils existent depuis très longtemps. C'est ce que la régie du bâtiment avait indiqué d'ailleurs dans sa décision de vendredi dernier. Elle a dit que la négligence des dernières années l'obligeait à fermer la station pour assurer la sécurité du public. L'entreprise est un mauvais citoyen corporatif. Elle a un historique de plusieurs années de négligence. Tous les utilisateurs, tout le monde dans la capitale nationale qui fréquente les lieux est à même de le constater. Il y a eu récemment la démolition du chalet du sommet de la Crête parce qu'il a été laissé à l'abandon par RCR. Il y a eu l'affaissement du stationnement, il y a eu l'écroulement de ponceaux, il y a eu les remontées mécaniques qui ont eu des problèmes, ça a causé des blessés. Certains, d'ailleurs, communiquent avec moi pour me dire à quel point ça a eu un impact important sur leur vie, ces incidents-là. Il y a eu la télécabine qui est tombée. Donc, c'est une longue série d'incidents. Tant mieux si le Mont-Sainte-Anne peut rouvrir, parce qu'il n'y a personne qui se réjouit dans la région pour l'économie, pour la réputation, que ça soit fermé. Mais n'empêche que les problèmes de fond demeurent les mêmes et donc il faut sortir RCR de l'équation.
Le gouvernement actuel, celui de la CAQ, ont une note à propos de ça. Hier, on recevait François Legault en studio, puis il disait « c'est pas une question de sécurité. Notre porte de sortie ne réside pas dans un manque de sécurité pour le public. » Là, on voulait rouvrir, donc ce serait tout de même pas une porte de sortie qu'on pourrait prendre au niveau du gouvernement pour expulser RCR. Mais on attend une enveloppe concrète de quelqu'un, d'un investisseur, que ce soit signé, que ce soit sur la table. Ça ferait changer les choses, non?
Mais oui, mais ça existe depuis longtemps, ces options-là. Et ça fait longtemps, moi, que j'en parle. Ça fait 2 ans que j'en parle, presque depuis que j'ai été élu. Alors moi, j'ai le premier ministre hier qui n'arrête pas de dire, sur plusieurs tribunes, la vôtre, « Ah, c'est nouveau, il y a des investisseurs qui ont levé la main, qui se réveillent enfin. » Ceux qui se réveillent, c'est le gouvernement de la CAQ, parce que les offres alternatives, elles sont là depuis longtemps. D'ailleurs, intéressant, qu'Ariane Bourassa, elle-même, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, la députée caquiste, le rappelait, elle, hier, sur d'autres tribunes. Elle disait « Ben oui, mais il n'y a rien que changé. Moi, ça fait longtemps que je suis au courant de ça. Je suis pas à la table de négociation, mais ça fait longtemps que je suis au courant. » Alors, qui dit vrai? Entre les deux, moi, je peux vous dire que je le sais depuis 2 ans. Et même si c'est public qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés à mettre la main à la pâte pour la montagne, il y aurait de l'argent neuf qui est promis, puis il y a des investisseurs québécois dans ce groupe-là. Donc, les alternatives existent. C'est le gouvernement de la CAQ qui a été à genoux et qui l'est toujours devant RCR, parce que là, aujourd'hui, oups! Qu'est-ce qu'ils vont faire? On le sait. Entre hier matin et hier soir, le discours semblait avoir changé un peu. Mais quand tu es à genoux devant RCR, quand tu veux signer à tout prix avec eux, ben c'est sûr que tu regardes pas les options qui existent.
Pourquoi, selon vous, ils sont à genoux encore devant RCR?
Et si seulement je le savais, parce que c'est la question que je pose depuis le début. J'ai fait beaucoup de sorties publiquement, mais c'est sûr que j'ai eu des discussions aussi, notamment avec les ministres concernés. Je cherche toujours la réponse à cette question-là parce que c'est un mauvais co-contractant et personne... Vous savez, j'ai souvent posé la question en chambre, en commission parlementaire. J'ai dit, je suis avec vous, là. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi, je suis fier du bilan de RCR. Je suis fier de l'état de la montagne, des installations. C'est pour ça que je donne 50 millions. Il n'y en a aucun qui a été capable de me dire ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire affaire avec ce mauvais citoyen corporatif C'est une question qui demeure mystérieuse, mais vous savez, c'est pas la première fois, nous, au Parti québécois, qu'on dénonce ça. Dans Nordvolt, hein, on était obnubilés par la compagnie étrangère, même si c'était une jeune pousse. Dans Stablex, on a fait le jeu d'une compagnie américaine. On a même fait adopter une loi spéciale à l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup de dossiers comme ça. Flying Whales, compagnie française. Donc, pourquoi on est aussi obnubilé par les compagnies étrangères? Mystère.
Monsieur Paradis, vous pensez pas que vous pourriez être dans le même bateau que la CAQ, admettons que vous étiez au pouvoir, si on comprend autant pas pourquoi il reste collé avec RCR?
Ah, non. Vraiment, j'ai vu les contrats. On peut faire quelque chose. Si on donne aux avocats le mandat de sortir RCR, et si on dit qu'on est prêt à aller jusqu'à la loi spéciale, nous, c'est ce qu'on propose au Parti québécois. On pense qu'il y a moyen de sortir du contrat actuellement. Mais c'est pas ça qui semble être le mandat. Le mandat, c'est de dire, vite, il faut signer à tout prix. Bon, heureusement, vous l'avez mentionné là, dans votre bulletin de nouvelles, on vient au moins de reprendre le pourtour de la montagne, parce que c'est un dossier qui est lié. C'est la station de ski de fond, de vélo de montagne, de sport de plein air. Ça, tant mieux si on a sorti RCR. En tout cas, j'attends de voir les contrats. J'espère que RCR est complètement sorti de cette équation-là. Je n'en serai pas sûr tant que je ne l'aurai pas vu de mes yeux vus, parce qu'il y a eu beaucoup de communication. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce dossier-là qui ne s'avèrent pas quand on regarde les documents. Donc, tant mieux, mais il faut faire la même chose maintenant pour la montagne. Et nous, on est déterminés. Ça fait longtemps qu'on le dit. Je l'ai réitéré lors d'une conférence de presse lundi dernier. Si le gouvernement de la CAQ ne fait pas ce qu'il faut pour l'avenir de la montagne, ben nous, on va le faire, parce que des promesses de RCR, d'investissement, là, on en a à la pelletée. Il y en a eu plein d'ententes où il dit « je vais investir, je vais m'occuper de la montagne, je vais m'occuper des installations, je vais m'occuper du secteur est ». Ils ne l'ont jamais fait. Donc, le passé est garant de l'avenir. Il faut y aller avec des gens sérieux qui vont investir. C'est important pour le sport, c'est important pour la villégiature, mais c'est un moteur économique. Là, on parle de plusieurs emplois. Et les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers ont raison d'être préoccupés.
Il y a pas quand même un danger, puis là, on le comprend dans le cas du Mont-Sainte-Anne avec RCR, mais pour un gouvernement, de dire on va rentrer dans le contrat avec une loi spéciale parce que telle raison, puis là, comme je dis, là on le comprend dans le cas du Mont-Sainte-Anne, mais ça créerait pas un certain précédent de donner un pouvoir au gouvernement de rentrer dans des contrats qui ont été signés pour faire bouger les choses?
Le précédent malheureux, c'est celui qui est créé actuellement par le gouvernement de la CAQ, d'être à genoux devant une entreprise qui opère un joyau qui appartient aux Québécois, faut-il le rappeler. C'est un droit superficiaire qu'on leur a accordé, là. La montagne, elle demeure une propriété du Québec. Malheureusement, elle a été bradée en 1994 par le gouvernement libéral. C'est ça le péché original. C'est le Parti libéral qui l'a. Mais ça appartient toujours aux Québécois. Et qu'on tolère, que l'État tolère, puis que même que l'État promette de donner de l'argent à un mauvais opérateur comme ça, c'est ça le dangereux précédent, de dire, ben, ah, ce gouvernement-là, il est pas debout devant les compagnies comme RCR, fait qu'on va aller, hein, on va continuer à y soutirer de l'argent. À l'inverse, un gouvernement qui se tient debout puis qui dit, nous, on va se faire respecter, c'est là qu'on doit fixer le curseur. Comment ça se fait qu'on était à genoux devant Stablex, une compagnie américaine qui veut enfouir au Québec des déchets dangereux? Une loi spéciale adoptée en 24 heures à l'Assemblée nationale, mais quand vient le temps plutôt de sortir un mauvais joueur pour favoriser un développement beaucoup plus adéquat de la montagne, là, on n'est pas capable de se tenir debout. C'est là le dangereux précédent.
Monsieur Paradis, donc on comprend bien que le Parti québécois, s'ils étaient au pouvoir, ne ferait plus affaire avec RCA. Je vous amène sur un autre dossier de la capitale nationale qui est l'investissement pour 5000 logements aux galeries de la capitale dans l'ancien Labbé. Si le Parti québécois est au pouvoir et fait élire plusieurs personnes dans la capitale nationale, on va faire comment avec le transport dans le secteur de Le Bourgneuf? Parce que si on ajoute 5000 résidents avec des voitures, ça va être l'enfer tantôt. Ce coin-là est déjà congestionné.
C'est tellement une bonne question. D'abord, qu'il y ait des projets comme ça avec des promoteurs privés, c'est une bonne nouvelle. Quand on entend dire 5000 logements dans un secteur en développement, tant mieux. Le problème, vous l'avez signalé, c'est ben maintenant, c'est déjà un des coins les plus... où il y a le plus de circulation, où il y a des problèmes d'embouteillage. et on ne veut pas en créer encore plus. Donc, 5 000 foyers, parce que c'est peut-être même plus que 5 000 personnes qui viennent s'installer là, on gère ça comment en circulation? Ben, il y en avait un plan. Ça s'appelle le plan cité de CDPQ qui est venu reprendre tout ce qui avait été fait dans les dernières décennies et qui disait, qui donne un plan qui comprend la couronne nord de Québec avec le développement notamment d'infrastructures importantes. Elles ont été mises sur la glace par le gouvernement de la CAQ l'année passée. Il y a des travaux qui étaient en cours.
Ouais,
qui étaient prévus,
donc, le PQ ferait le pont à étagement, justement, autoroute Robert-Bourassa, boulevard Le Bourgneuf, ferait également le projet de voie réservée dans le nord de la ville?
Ben oui, parce que c'est un plan, c'est un tout. Et les gens de la couronne nord ont le droit, comme les autres citoyens de la capitale nationale, d'avoir accès à un service de transport collectif efficace, parce qu'il y en a qui disent, ben moi, tu sais, si j'avais une alternative qui fonctionne, qui est rapide, qui est confortable, ben je le prendrais. Puis là, elle n'est pas là actuellement, puis ça faisait partie de ce plan-là, ça a été arrêté. Non seulement ça, il y a aussi la fabulation électoraliste du troisième lien. Tout le monde le sait que ça n'arrivera pas, mais le gouvernement actuellement, le gouvernement de la CAQ, est obnubilé par ça, parce que là, il voit l'élection qui arrive, fait qu'il faut qu'il se prépare pour l'élection. Mais imaginez donc que, quand on regarde les plans, ça va faire arriver plus de circulation dans ce secteur-là. Où est-ce que ça va sortir, le troisième lien? Est-ce que ça va amener plus de circulation dans ce secteur-là? C'est une question que plusieurs se posent actuellement. Alors, imaginons, on pourrait empirer la situation. Non seulement on n'allège pas le trafic, mais on l'empire. Donc, les gens du secteur doivent être très attentifs à ça, parce que là, il y a des annonces qui s'en viennent. Je le redis, tout le monde le sait que ça n'arrivera pas, ce projet-là, mais c'est quand même ça qui est prévu plutôt que d'avoir des moyens de favoriser le développement de 5000 logements dans la région.
Pascal Paradis, est-ce que le Parti québécois est déçu de ne pas avoir à affronter Pablo Rodriguez comme chef libéral aux prochaines élections?
Bon, écoutez, on va suivre la suite du feuilleton aujourd'hui. Monsieur Rodriguez là, va s'adresser, je pense, au Québec à 10h30. On va écouter ça avec attention. Mais ce qu'on voit se dérouler sous nos yeux, c'est préoccupant. Et ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Ce n'est pas uniquement attaché à une personne. Puis là, on comprend que ça va peut-être être la stratégie de dire « Ah, ben c'est juste une personne ». C'est une culture qui se reproduit, qui c'est la même chose qui revient constamment avec le Parti libéral. Et souvent dans l'histoire, d'ailleurs, c'est le gouvernement du Parti québécois qui est arrivé après, puis qui a resserré la vis, puis qui a fait adopter des règles pour rendre notamment le financement électoral plus transparent, plus équitable. Donc ça, je pense que c'est préoccupant pour tout le monde pour voir que ça semble pas avoir changé.
Allez-vous jusqu'à dire que le Parti libéral du Québec est corrompu comme votre chef Paul Saint-Pierre Plamondon?
Ben, c'est parce que quand on regarde les faits, la commission Charbonneau, les problèmes de financement électoraux, là, actuellement, il y a plein d'éléments qui ressortent sur la tricherie lors de la dernière campagne référendaire, que c'était même prévu que, de toute façon, peu importe ce qui arrive, que ce soit un oui, que ce soit un non, il y avait un plan B qui était prévu, où on trichait pour ne pas respecter la volonté des Québécois, ou même s'il y avait un vote non, après ça, qu'on dépensait de l'argent pour acheter une loyauté au Canada. Là, tout ça, c'est documenté. Tout ça existe. D'ailleurs, nous, on demande toujours qu'on ait accès, finalement, aux documents de la commission Grenier qui étudie ces questions-là. Donc, ça devient difficile, après ça, de nier les faits que ça existe, cette culture de la tricherie et de la corruption.
Pour vous, est-ce que le problème réside plus dans le personnel politique ou dans les candidats, les politiciens eux-mêmes?
Ben, ce qui ressort, en tout cas, de ces cas précédents, puis de là actuellement, c'est sûr qu'il y a 4 enquêtes, je pense, qui sont en cours relativement au Parti libéral. Donc, on va devoir avoir les résultats de ces enquêtes-là, puis on espère qu'elles vont être menées avec diligence et transparence. Mais ça semble être quand on parle d'une culture, c'est une façon de fonctionner. Donc, ça dépend pas d'une seule personne. C'est une façon de voir les choses. Là, il semblerait qu'une des personnes impliquées nous dit « Ben oui, moi, j'organisais un événement chez moi, puis j'avais des enveloppes avec de l'argent dedans. Comment ça se fait qu'on tolère encore ça? Comment ça se fait que ça se passe encore? » Nous, en tout cas, je peux vous dire, au Parti québécois, c'est un parti de militants. C'est un parti qui a toujours été à l'avant-garde sur les règles éthiques puis le développement de règles démocratiques pour le financement électoral. C'est encore ça aujourd'hui, puis je suis très fier d'être dans un parti dont c'est l'ADN.
Vous m'avez pas répondu. Vous avez frôlé la réponse, mais je vous remercie, M. Paradis.
Pascal Paradis, c'est toujours un plaisir de vous parler. On se reparle prochainement. Si on se parle pas la semaine prochaine, on vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon repos durant cette période des fêtes avec la famille et au plaisir de se reparler en 2026.
Joyeuses fêtes à vous.
Merci beaucoup. Au revoir, Pascal Paradis, député de Jean Talon et porte-parole en matière de capitale nationale pour le Parti québécois.
J'ai décidé ça, moi je vais leur dire quand je trouve que j'ai pas eu de réponse à ma question.
Ouais, ben tu sais, je pense qu'il a répondu, là, que ça venait du...
Il a frôlé la réponse.
Ouais, exactement.
Mais ça, c'est un enjeu, je pense qu'il va falloir surveiller pour la suite des choses, parce que on dirait qu'on commence à se rendre compte que le staff politique a un énorme pouvoir sur la personne qui finalement représente le parti et où notre circonscription et autres.
Non, en effet, on dit souvent qu'à la CAQ, c'est Martin Koskinen, le vrai premier ministre, et non pas François Legault. Denis Gravel s'en vient dans le pit stop après cette courte pause. Êtes-vous tanné, chers parents, de voir que dans vos cours d'école, ben, les enfants sont interdits de courir, de jouer à tag, de jouer au roi de la montagne, de faire des roues latérales sur le gazon? Coudonc, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants dans ces cours d'école-là? On parle de ça avec Denis Gravel après cette courte pause. C'est le pit stop qui suit.
Marceau